Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Patience et longueur de temps. Le gouvernement Castex reste en place pour les 10 jours qui viennent. Emmanuel Macron se donne du temps pour constituer la nouvelle équipe. Les murs tremblent dans la maison PS depuis l'accord avec les Insoumis. François Hollande et deux de ses ex-premiers ministres dénoncent cette alliance. Inciser la langue des bébés pour faciliter l'allaitement. Une pratique en vogue, une pratique dangereuse. Vous entendrez la mise en garde de l'Académie de médecine. Top Gun revient sur grand écran, événement en partenariat avec Europe 1. En fin de journal, levée de rideau garantie sans spoiler. Et puis reportage exceptionnel à bord du porte-avions Charles de Gaulle. On ira à la rencontre de nos pilotes de chasse biberonnés aux cascades de Tom Cruise. La météo demain sera très nuageuse sur une large façade est du pays. À 22h20, zoom sur une association toulousaine très ingénieuse. Ma bibliothèque d'objets propose la location entre particuliers d'objets qui servent peu. Et puis juste avant la libre antenne, les gros titres des journaux demain matin.
Europe 1.
La quille attendra pour le gouvernement Castex. Le suspense va durer. L'équipe actuelle reste en fonction au moins jusqu'au 13 mai. Le porte-parole Gabriel Attal l'a confirmé ce matin à la sortie du Conseil des ministres.
Il y a l'investiture du président de la République pour son second mandat qui aura lieu ce samedi, conformément à ce qui a été annoncé par la présidence de la République. Et il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Le gouvernement de Jean Castex reste donc aux commandes pour encore une dizaine de jours. Le 13 mai, ce sera donc quasiment 3 semaines après la réélection d'Emmanuel Macron. Jacques Sorey, pourquoi maintenir l'actuel gouvernement aussi longtemps ?
Eh bien, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron veut prendre son temps. Il temporise en attendant la fin officielle de son premier quinquennat le 13 mai au soir pour ne pas faire d'erreur de casting. Mais cela révèle surtout que le futur gouvernement n'est pas prêt, que le président n'a toujours pas trouvé de Premier ministre, mais aussi et surtout qu'Emmanuel Macron a du mal à se séparer de Jean Castex. D'ailleurs, selon nos informations, le chef de l'État a bien demandé au locataire de Matignon de rester à ses côtés jusqu'au deuxième tour des législatives. Sauf que voilà, Jean Castex a dit non. Et depuis, ce sont 2 autres refus auquel Emmanuel Macron a dû faire face pour Matignon. Véronique Bédague, d'abord ex-directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon, actuelle directrice générale de Nexit Immobilier. Et puis Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors l'Élysée dément catégoriquement, mais difficile de ne pas y voir un moment de flottement. Le premier quinquennat n'est pas vraiment terminé, le second n'a pas vraiment commencé. Confidence d'un poids lourd de la Macronie. Oui, c'est le grand flou. On a hâte que ça se termine.
Le grand flou au sommet de l'État. Merci Jacques Sorey du service politique d'Europe 1. Pendant ce temps, ça gronde au PS depuis la finalisation de l'accord avec les Insoumis pour les législatives. François Hollande récuse cette alliance. Son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve l'avait promis. Il claque la porte du parti. C'est maintenant au Parlement du Parti socialiste de trancher. Cet accord PS-France Insoumise sera soumis demain à l'approbation du Conseil national du PS. Et autant le dire, Victor Chabert, rien n'est encore fait.
Oui, 2 lignes s'affrontent, celle du premier secrétaire Olivier Faure, qui a mis toute son énergie pour arriver à l'union de la gauche, et celle des barons locaux d'Anne Hidalgo, Carole Delga ou des anciens de la Hollandie comme Stéphane Le Foll. Ces derniers, en dehors des divergences de fond avec LFI ou les Verts, estiment payer très cher cet accord, notamment en termes de circonscription. Un exemple, l'Occitanie, région présidée par Carole Delga, présidente sortante socialiste la mieux réélue. Et bien actuellement, dans l'accord, sur les 49 circonscriptions que compte cette région, le PS n'en obtiendrait que 6. Dans certains départements socialistes historiques, comme l'Hérault, il est tout simplement rayé de la carte au profit des Verts et des Insoumis. À Paris, le PS n'obtiendrait que 2 circonscriptions. On peut donc tout à fait s'attendre à des dissidences. On imagine mal Carole Delga ou Anne Hidalgo accepter de telles conditions. Ce soir, le bureau national du PS se réunit avant un conseil national. Demain, c'est dans cette instance, sorte de parlement du parti, que sera voté ou non cet accord. Et d'après ce que me confient des cadres, il faut s'attendre à un vote très serré, rien n'est joué et les débats s'annoncent très houleux.
Victor Chabert, débat houleux également chez les militants. Tous les socialistes ne voient pas d'un très bon œil ce ralliement annoncé à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Annie, par exemple, Annie est encartée au PS depuis près de 50 ans. Alors, alliance ou pas alliance ?
Moi, je l'ai vécu en 81, donc oui, mais pas en ce moment. Pas en ce moment et pas avec Mélenchon, parce qu'il n'est pas européen. Je n'ai pas pu oublier sa façon de traiter les policiers quand il y a eu dans ses bureaux une perquisition. C'est quelqu'un d'incontrôlable.
Et c'est peut-être le seul moyen pour le PS d'exister aussi.
Eh oui, c'est le gros problème. C'est le gros problème parce qu'on est devenu presque rien. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Hein. On n'a pas fait confiance suffisamment à François Hollande, selon moi. Il a eu des pots de banane dès qu'il est arrivé. Et depuis, ben, ça ne va plus.
Annie, une militante socialiste au micro de Maximilien Carlier. La situation en Ukraine maintenant. La Russie annonce ce soir un cessez-le-feu dans l'usine Azovstal à Mariupol pour permettre l'évacuation de civils. Une partie d'entre eux a déjà été évacuée avec l'aide des Nations Unies. Le président ukrainien Zelensky appelle l'ONU à sauver les blessés d'Azovstal. Les prochaines sanctions européennes contre la Russie viseront l'or noir de Moscou. La Commission de Bruxelles propose un embargo des 27 sur le pétrole russe, Maud Descamps.
Oui, il s'agira d'un embargo progressif puisque Bruxelles propose d'arrêter d'ici 6 mois les importations de pétrole russe. Le temps de trouver d'autres voies d'approvisionnement. Il faut savoir que le pétrole russe représente environ un quart des importations européennes. Une décision qui était nécessaire, a estimé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devant le Parlement à Strasbourg ce matin, mais qui ne sera pas sans conséquences.
Soyons clairs, cela ne sera pas facile. Certains États membres ont une forte dépendance au pétrole russe, mais nous devons le faire. Aujourd'hui, nous annonçons un embargo sur le pétrole russe. Cela concernera le pétrole importé par pipeline et par bateau, brut et raffiné.
Cet embargo sur le pétrole russe vise évidemment à tarir le financement de la guerre en Ukraine. Autre sanction proposée par Bruxelles, exclure la plus grosse banque russe, Sberbank, du système financier international SWIFT, ainsi que 2 autres banques. Cela renforcera l'isolement total du secteur financier russe, a estimé la présidente de la Commission européenne.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1. Les renseignements ukrainiens croient connaître les projets à court terme de Moscou à Mariupol. La Russie préparerait son traditionnel défilé militaire du 9 mai lundi prochain dans les rues de cette ville ukrainienne qui sont actuellement nettoyées à la hâte par l'occupant russe. Un hélicoptère russe a violé ce matin l'espace aérien de la Finlande alors même que les Finlandais sont en train de préparer une très probable demande d'adhésion à l'OTAN. Deuxième incursion en un mois d'un appareil russe dans l'espace aérien finlandais.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Ce sera sans doute l'un des défis du prochain gouvernement, redynamiser le monde rural qui se sent souvent, à juste titre d'ailleurs, laissé pour compte. On vous emmène ce soir en Bretagne, avec cette initiative contre les déserts médicaux, 50 pharmacies bretonnes expérimentent la prise en charge des malades pour les petits bobos ou les petits rhumes du quotidien. C'est une première en France, sous l'égide de l'Agence régionale de santé. Ça vous évite évidemment des heures de route et des semaines d'attente. Reportage à Lorient, Charles Guyard.
Bonjour madame, j'ai un petit peu mal à la gorge.
Voilà 2 ou 3 jours que Cécilia ressent des douleurs. Alors pas dramatiques les douleurs, mais évidemment pas agréables du tout.
J'ai vraiment mal quand j'avale.
Face à elle, Véronique Prié, cette pharmacienne de Lorient, pose des questions dans un ordre bien précis.
Alors, est-ce que vous avez de la fièvre?
Je me sens peut-être un peu fiévreuse, effectivement.
Vous toussez aussi un petit peu?
Non.
Objectif de cet échange, déterminer si le cas de Cécilia relève de la médecine ou uniquement de la pharmacologie, autrement dit.
Si c'est une angine virale, je peux vous prodiguer des conseils, mais si c'est bactérien, rien, ce sera un médecin.
Sur son écran, Véronique Prié coche des cases et un logiciel lui indique alors la marche à suivre en fonction des réponses. En 15 minutes, un avis est rendu.
C'est une angine virale, donc ça ne nécessite pas d'aller chez le médecin.
Et pour Cécilia, c'est un vrai soulagement.
Ça fait beaucoup moins d'attente que d'aller chez le médecin.
Moins d'attente pour le patient et surtout moins de monde dans les cabinets médicaux ou aux urgences, parfois encombrés par ce qu'on appelle de la simple bobologie. C'est dans ce but que 50 officines testent ce dispositif de tri en Bretagne sur 13 cas définis, comme des maux de tête, des angines, des plaies. Depuis quelques mois, sur les quelques 400 personnes vues en pharmacie, les 3/4 ont pu ensuite se passer d'une visite chez le médecin ou à l'hôpital.
Merci madame.
Lorient, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, et ce test en pharmacie va durer 2 ans. Il devrait d'ailleurs être étendu ensuite au reste de la France. Pourquoi inciser la langue des bébés? De plus en plus de jeunes parents demandent cette opération qu'on appelle une frénotomie. Ça consiste à donner un petit coup de scalpel ou de laser sous la langue des nouveau-nés en coupant le frein qui la relie au bas de la bouche. Cette intervention est censée favoriser la tétée et donc l'allaitement des nourrissons. Mauvaise idée, c'est ce que nous dit le corps médical qui vous met en garde contre des professionnels d'ailleurs peu scrupuleux. Ce geste n'a aucun fondement scientifique. Écoutez Elisabeth Éléphant de l'Académie de médecine.
Couper le frein de la langue est un geste qui peut sembler anodin, qui ne l'est pas. C'est un geste en général sans anesthésie générale. On coupe ce frein de langue qui est court, qui ressemble à un petit cordon, considéré comme indolore pour le nouveau-né. On le coupe avec une paire de ciseaux. Toutes les études aboutissent au fait qu'il n'y a aucune preuve de l'intérêt de ce geste. Donc on se retrouve face à un geste qui n'a pas prouvé son intérêt et son bénéfice lorsque l'allaitement maternel ne se passe pas bien. C'est quelque chose qui effectivement est relativement agressif, puisqu'il y a des conséquences après locales en termes de cicatrisation, voire d'hémorragie, etc. Et éventuellement après, ça peut se manifester par des enfants qui ont des difficultés sur le plan de l'alimentation, tout simplement par voie orale. Hein.
Le docteur Elisabeth L'Enfant, au micro de Yasmine Akatou. La parole est redonnée aux parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. Près d'une centaine vont témoigner jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Aujourd'hui, la cour d'assises spéciale de Paris a écouté Juan Pablo, un jeune homme de 34 ans, survivant de l'attentat de la terrasse du Carillon. Juan Pablo a décidé de rompre le silence.
J'ai décidé de parler pour participer à cette mémoire collective. Ça fait 5 ans que je n'en parle pas. Et c'est juste en octobre, novembre que je parlais pour la première fois 2021. À ces accusés-là, je ne voulais pas leur dire « vous êtes cons, je ne comprends pas ce que vous avez fait ». Mais ce sont des humains, c'était des jeunes aussi. Et je voulais juste comprendre un peu plus en détail. C'est ce qu'ils pensaient, pourquoi ils voulaient le faire. J'ai entendu un peu, mais je ne pense pas que j'ai toutes les réponses.
Juan Pablo, rescapé des attaques des terrasses à Paris, au micro de Gladys Laffitte. La Chine, confrontée à l'échec de sa stratégie zéro Covid, après Shanghai, 25 millions d'habitants confinés depuis plus d'un mois, eh bien les autorités chinoises ont fermé des dizaines de stations de métro à Pékin pour limiter les déplacements de la population. Pékin, 21 millions d'habitants et quelques dizaines de cas de Covid par jour. Il est sans doute le plus célèbre pilote de chasse du cinéma. 36 ans après Top Gun, Tom Cruise, alias Maverick, revient sur vos écrans avec à peine quelques rides en plus. Top Gun Maverick sur le tapis rouge du Festival de Cannes et dans la foulée au cinéma. Ce sera dès le 25 mai, un film événement en partenariat avec Europe 1. Et cette question qui hante d'ailleurs les fans Marie Jiquel, est-ce qu'on va oui ou non revoir le grand rival de Tom Cruise, Val Kilmer, alias Iceman?
Et oui Alexandre, c'est la préoccupation des fans de Top Gun comme Christelle.
Je me demande si on va le voir. It's Mr. Iceman to you. Hey Mother Goose, how's it going? Ouais, j'aimerais bien revoir Tom Cruise et Val Kilmer se parler et ils vont même peut-être piloter ensemble. Donc bon. Who's the best pilot?
No, I think I can figure that one out on my own. Alors Alexandre, pourquoi cette interrogation sur la participation ou non de Val Kilmer? Eh bien l'acteur a été gravement malade ces dernières années. Un cancer de la gorge l'empêche de bien s'exprimer aujourd'hui. Un documentaire que je vous conseille au passage a d'ailleurs été consacré à la rémission de l'acteur américain. Mais dans la bande-annonce de ce second volet, on aperçoit une photo de Val Kilmer. De quoi alimenter les théories? Voix de synthèse, simple clin d'œil photographique. Où Val Kilmer en vrai? Réponse le 25 mai.
Allez hop, looping. On verra d'ailleurs si avec l'âge, Tom Cruise s'amuse toujours à raser la tour de contrôle avec son avion de chasse. Merci Marie Jiquel. Top Gun qui a fait rêver des ados, dont certains sont aujourd'hui le fer de lance de notre défense aérienne. Océane Théard a d'ailleurs pu embarquer pour Europe 1 sur le porte-avions Charles de Gaulle à la rencontre des pilotes de l'aéronaval qui doivent un peu sans doute de leur vocation à Top Gun. Reportage.
Le Charles de Gaulle tremble. Sur le pont, l'odeur entêtante du kérosène emplit l'air. Puis un avion Rafale s'envole, 11 tonnes de métal qui s'éloignent au-dessus de la Méditerranée. Aux commandes, Johan, un regard bleu perçant derrière sa visière. 28 ans seulement, pourtant le jeune pilote de Rafale Marine garde un souvenir indélébile de la première scène de Top Gun.
C'est cette fameuse musique avec cet énorme coucher de soleil. Il voit tout le monde travailler sur le porte-avions et bien évidemment, ça a un caractère mythique.
Top Gun, c'est aussi bien sûr Maverick, l'impétueux pilote joué par Tom Cruise, sourit le capitaine Cyril. Derrière une immense baie vitrée, il veille au déplacement des Rafale Marine sur le pont.
Moi je me suis dit... Pourquoi je ne serai pas à la place de Tom Cruise? Alors bien sûr, au-delà du film, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement, mais l'aspect métier de rêve, bah, il est quand même bien là.
Zéro la barre.
Je suis le capitaine de frégate Vincent, je suis à la tête de tout ce qui vole à bord du porte-avions, avions comme hélicoptères. Top Gun est souvent une référence pour les pilotes de chasse dans la marine avec de très bons moments, beaucoup d'adrénaline et on attend avec impatience la sortie du nouvel opus.
Et plus que 3 semaines à attendre pour l'équipage avant de reprendre les airs sur grand écran 36 ans après leur premier frisson.
Voilà, reportage Océan Théard sur le porte-avions Charles de Gaulle, Top Gun, Maverick. Rendez-vous le 25 mai sur grand écran avec Europe 1. Ça vous laisse le temps d'ailleurs de réviser votre classique. Seconde demi-finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Le Real Madrid reçoit Manchester City, toujours 0-0 dans la seconde mi-temps. Le vainqueur rejoindra en finale le Liverpool qui s'est qualifié hier soir en éliminant Villarreal. Un maillot de Maradona a jugé plus de 9 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's à New York. C'est un record pour un vêtement de sport. Il s'agit en fait du maillot que portait Diego Maradona pour la Coupe du Monde 1986 et sa victoire face à l'Angleterre.
Mercredi 4 mai 2022. Au quatrième top, il sera
22h15 et 50 secondes sur Europe 1. Voilà un geste qui était encore courant dans les années Top Gun, les années 80. L'horloge parlante a quand même survécu jusqu'à nous. Elle est made in France et quand elle est née d'ailleurs en 1933, c'était une première mondiale. Mais voici l'heure de retirer sa révérence. Les smartphones, PC et autres tablettes ont eu raison de l'horloge parlante. Elle sera arrêtée le 1er juillet prochain. Je voyais que ça coûte quand même 1,50€ plus le prix de l'appel pour la consulter, cette horloge parlante, au 36,99€ avec la précision tout de même, nous dit-on, d'une horloge atomique. Il manquerait plus que ça. Tout de suite, la météo. Le temps pour demain, Marlène Duret, avec une précision d'horloge atomique. Ce sera de la pluie, mais pas partout, apparemment.
Oui, plutôt dans l'est du pays, Alexandre. On va avoir des nuages bien soudés et des pluies qui vont arroser toute la journée. Les régions allant de l'Alsace à la Corse, en passant par la Franche-Comté et les Alpes. Alors, la Côte d'Azur sera un petit peu en marge. On n'exclut pas un petit orage dans l'intérieur de la Provence, d'ailleurs, en journée. Quelques averses passagères, on en aura, oui, dans un ciel changeant, entre deux éclaircies, sur une zone qui s'étendra des Pyrénées à la Champagne et à la Lorraine, en passant par la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et une grande partie de l'Occitanie. Et puis, le temps s'annonce quand même beaucoup plus sympa en allant vers l'ouest du pays. Après, parfois une matinée nuageuse, ce sera le cas dans les Hauts-de-France, en région parisienne, jusqu'en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Le soleil se montrera dans l'après-midi. Et puis, c'est une belle journée ensoleillée quand même, il faut dire, sur les plages de l'Atlantique et de la Manche, notamment du littoral normand à la côte d'Opale. Et en attendant, les chaleurs qui vont s'inviter la semaine prochaine, les températures vont baisser là où les pluies vont s'attarder. Par exemple, à Mulhouse, 14 degrés perdra 8 degrés par rapport à aujourd'hui. Nous aurons 16 à Grenoble. Grenoble qui affichait 23 aujourd'hui. Comptez 17 à Vittel ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 18 à Dijon et Lyon, 19 degrés à Montélimar. Il fera 20 à Paris, Reims, Cannes, 21 au Mans, 22 à Bordeaux et 23 à Marseille. Donc de la chaleur pour la semaine prochaine et du beau temps à partir de dimanche. Et je regarde jusqu'à mercredi. C'est beau, c'est chaud, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Mais forcément, c'est une bonne nouvelle.
Mais pour les terres agricoles, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Il faut qu'il pleuve quand même, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien
une
sûr.
Moyenne de 25 au nord et 26 au sud pour la journée de mercredi.
Merci. Merci Marlène Duret. Nouveau point météo tout à l'heure à minuit avec vous sur Europe 1.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, le grand rendez-vous du jour pour Wall Street. Eh bien, c'était le verdict de la Fed. Les marchés ont terminé en forte hausse après ces annonces.
Oui, c'était même le rendez-vous de la semaine, le verdict de la Fed. Et comme prévu, la Réserve fédérale a décidé de relever ses taux de 50 points de base ce soir. C'est sa hausse de taux la plus importante depuis plus de 20 ans. L'objectif de taux passe donc dans la fourchette de 0,75 à 1%. En revanche, la Fed écarte l'hypothèse d'un tour de vis plus important, une hausse de 75 points de base au mois de juin. Ce scénario, il inquiétait les marchés et ça explique la forte hausse de ce soir. Plus 2,81% pour le Dow Jones à 34 061 points et le Nasdaq bondit même de 3,19%. Donc une réaction très positive des marchés américains. Notez aussi que le bilan de la Fed sera réduit à partir du mois de juin. Ce bilan, il dépasse les 9 000 milliards de dollars, conséquence des programmes d'achat d'actifs mis en œuvre en 2020 pour contrer la crise du coronavirus.
Le pétrole est en forte hausse ce soir et c'est toujours lié bien sûr à l'offensive russe en Ukraine.
Oui, beaucoup de volatilité autour du pétrole. Le baril de WTI bondit de 5,5%. Il est à 108$ après la proposition d'un embargo européen sur le pétrole russe. C'est dans le cadre d'un sixième train de sanctions contre Moscou. Du côté des valeurs, Airbnb s'envole de 7,7% après ses résultats trimestriels. Le spécialiste de la location de logements est optimiste pour les prochains mois grâce à la reprise du tourisme. C'est beaucoup plus compliqué pour le spécialiste des VTC, Lyft. Et il chute de 30% ce soir après avoir déçu les attentes en matière de prévision. Et il entraîne avec lui son grand concurrent Uber qui perd 4,6%.
À Paris, enfin, les investisseurs sont restés fébriles aujourd'hui en attendant ce verdict de la Fed et le CAC 40 a clôturé en baisse.
Oui, de la nervosité. Et après un bon départ, le CAC 40 a basculé dans le rouge. Il perd 1,24% ce soir, 6395 points. Du côté des valeurs, EDF perd 2,5% après s'être montré prudent sur ses perspectives et avoir évoqué une augmentation des risques liés au projet d'Hinkley Point au Royaume-Uni. À l'inverse, pour Ubisoft, c'est un bond de près de 9%, l'éditeur de jeux vidéo qui est encore porté par des rumeurs de rachat. Les marchés européens ont terminé dans le rouge ce soir. Londres perd 0,9%, moins 0,5% pour le DAX à Francfort. Madrid perd 1%, Milan moins 1,4%. Et à Paris, c'est un repli de 1,2% pour le CAC 40. On est à 6395 points.
Merci Carl Lemaître.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur
Europe 1. La Caisse d'Épargne vous présente l'Invité Éco. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Avec une très belle solution justement ce soir pour protéger tout à la fois l'environnement et votre pouvoir d'achat. Notre Invité Éco, Fabien Estival, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de l'association Ma Bibliothèque d'Objets. Vous êtes à Toulouse. Alors, on sait tous évidemment que les prix flambent en ce moment, l'alimentation, l'énergie. On veut tous protéger notre pouvoir d'achat. Et vous, eh bien, vous proposez cette super idée, la location entre particuliers de tout un tas d'objets dont on a tous besoin à un moment donné, mais qui ne servent pas souvent. C'est bien ça?
C'est exactement ça. À peut-être une petite précision près, c'est qu'en fait, nous, on possède une partie des objets qui sont mis à la location. Et effectivement, certains sont mis à la disposition de notre association par des particuliers qui souhaitent nous encourager, qui souhaitent nous soutenir. Et nous, ensuite, on les met à la location. On gère la logistique pour les mettre à disposition donc de nos usagers.
Donc c'est un stock d'objets que vous avez à la disposition, ce sont des adhérents, il faut adhérer à votre association ?
Exactement. Donc on s'est formé en association, on évoluera peut-être vers un statut coopératif. Mmh. En tout cas, effectivement, pour l'instant, on est une association. Il y a une adhésion de 5 euros à l'année, donc ça reste assez symbolique. C'est pour simplement signifier qu'effectivement, on fait partie, que le fait d'accéder à ce service-là, c'est aussi faire partie d'une association. Voilà, donc c'est 5 euros à l'année. Mmh.
Qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on peut louer, alors, très précisément ? Donnez-nous des exemples. Des outils de bricolage, des appareils de cuisine
Effectivement, alors ce qu'on a souhaité faire avec la bibliothèque d'objets, c'est de donner accès à une variété la plus large possible d'objets pour des besoins du quotidien, pour des besoins domestiques. Mm-hmm. Donc en fait, on va trouver des objets, effectivement, comme vous l'avez dit, de cuisine, mais aussi de bricolage, de jardinage, mais aussi des loisirs de plein air. Donc je pense par exemple à une tente de camping, à un réchaud pour le camping. Un cerf-volant, voilà, des choses pour le plein air. On a aussi du matériel d'entretien de la maison, donc avec un nettoyeur haute pression par exemple, une shampouineuse, mais aussi pour des petits travaux domestiques, créatifs, donc une machine à coudre et du matériel de bricolage comme on l'a déjà évoqué.
Ouais, c'est très varié. Des accessoires pour bébé aussi peut-être, vous en proposez également ?
Exactement, on a aussi effectivement du matériel dédié à la puériculture quand on a des amis par exemple qui nous rendent visite pour pas s'encombrer quand on a des enfants, bah, effectivement sur place on peut venir nous louer un lit parapluie, une poussette, on l'a pas encore mais on l'aura très prochainement, un siège bébé pour la voiture, tout un tas de matériel qui va pouvoir rendre service de façon ponctuelle.
On se dit, et c'est vrai, même en ayant le budget pour tout cela, c'est un peu du gaspillage d'acheter tous ces appareils, ces outils qui servent que quelques fois par an et qui, le reste du temps, vont rester dans un placard, Fabien Estival.
C'est exactement la raison pour laquelle on a créé cette activité, c'est qu'au départ, ça part d'un constat, c'est qu'on est quand même dans une surconsommation, on consomme énormément, on achète parfois pour utiliser que très peu les objets que l'on achète, donc ils vont rester sur nos étagères. On a tous, je pense, des exemples dans nos placards, dans nos garages ou sur nos étagères d'objets qui ont été achetés et qui nous servent une fois par an ou qui ont peut-être servi une seule fois. Et en fait, on n'a pas forcément conscience, mais chaque acte d'achat en fait a une répercussion sur notre environnement. Dans le cycle de vie d'un produit, si on commence simplement par la production d'un objet va avoir un impact sur notre environnement, c'est-à-dire qu'en fait pour produire un objet nécessairement on fait appel à des ressources matérielles et à de l'énergie, et en fait simplement cette surconsommation dans laquelle on est, entraîne très directement des épuisements de ressources, tout simplement, ouais. Effectivement. Et donc, nous, on a voulu se positionner justement sur cette notion d'usage. On se place sur ce que l'on appelle l'économie de la fonctionnalité, ou autrement dit, l'économie de l'usage, pour faire en sorte de proposer des solutions qui permettent de faire différemment, donc de remplacer le geste d'achat quand il n'est pas forcément utile, par un usage, donc dans notre cas, par de la location.
Alors là, très concrètement, j'ai une perceuse à la maison dont je me sers peu, je la rentabilise d'une certaine manière. En la louant, ça me rapporte quelque chose, moi qui possède cette perceuse ?
Alors non, aujourd'hui on n'est pas intégralement propriétaire du stock. Nous, on gère le stock, on est sur des tarifs qui sont très modiques. Je vous donne la fourchette, on est entre 2 et 32 euros à la semaine. Ce sont des locations à la semaine. Donc aujourd'hui, notre fonctionnement, on est encore en recherche quelque part d'un modèle économique. Oui. On travaille sur ces questions-là. Le projet, il a été lancé il y a 2 mois, donc c'est tout récent.
Ah, c'est tout neuf, oui.
C'est vraiment tout récent, effectivement. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas proposer, en tout cas à ce stade, peut-être que le projet va évoluer, mais en tout cas, on ne peut pas proposer de contrepartie économique, financière aux personnes qui nous prêtent ou qui nous donnent des objets. Simplement, les personnes qui le font jusqu'ici, elles souhaitent simplement s'engager pour contribuer à ces changements de comportement de consommation.
Votre site internet, Fabien Estival, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est peut-être un peu le même principe que Le Bon Coin ? Est-ce que vous avez un catalogue d'annonces d'objets à louer ?
Effectivement, on a un catalogue en ligne, donc c'est sur le site de ma bibliothèque d'objets, donc ça s'appelle, on a raccourci l'URL, c'est www.ma-6bo.fr, donc pour ma bibliothèque d'objets, et on y retrouve effectivement tout le catalogue. Et donc tout le catalogue en fait, ouais. Aujourd'hui il est stocké dans un local qui est dans le nord de Toulouse à quartier Barrière de Paris, ouais. Et donc à chaque fois qu'une location va être réalisée, le jeudi qui suit on s'engage à rendre disponible l'objet dans un des points relais de la ville. Pour l'instant on en a 5, mais c'est un réseau de points relais qui a amené à s'élargir, ouais. On vise une trentaine de points relais dans la ville et en périphérie, on travaille sur Toulouse Métropole.
Une question qui intéresse aussi les auditeurs, ouais. qui vivent dans d'autres villes, Fabien Estival. Est-ce que vous songez dans l'avenir, je ne sais pas, à vous étendre, à trouver des partenariats avec d'autres associations sur ce même modèle ?
Effectivement, on aimerait beaucoup. Alors, il y a déjà des initiatives qui se créent ici, là, dans d'autres villes. C'est une initiative, les bibliothèques d'objets, en fait, historiquement, elles sont nées aux États-Unis du concept de Library of Things, donc de l'anglais bibliothèque d'objets traduit directement. Donc, ouais. On n'a pas été chercher notre nom bien loin.
Ça marche, hein, mais, c'est efficace.
Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. On n'allait pas chercher quelque chose de très exotique. On n'est pas allé chercher bien loin, mais en même temps, ça rend la chose un petit peu parlante. Et effectivement, il y a d'autres initiatives qui existent dans d'autres villes de France, mais c'est tout nouveau. Il y en a qui ont à peine quelques mois de plus. qui sont à l'échelle de quartier. Et effectivement, nous, aujourd'hui, au stade où on en est de notre développement, on cherche encore à faire la preuve du concept. Alors, on est plutôt confiant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ça répond à des besoins. Effectivement, vous avez évoqué la notion de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, effectivement, nous, on cherche à répondre à des enjeux environnementaux, mais effectivement, on se rend compte qu'on va aussi répondre à des enjeux sociaux et à des enjeux économiques. Donc, on est ravis de pouvoir le faire. Ça concilie un petit peu tous ces enjeux-là. Et effectivement, cette question de s'étendre et de travailler et de pouvoir proposer la solution sur d'autres villes, on n'y est pas encore parce que la solution est toute jeune et naissante.
C'est sur les rails en tout cas. Et on a été ravis, nous, sur Europe 1, de vous donner ce coup de pouce, Fabien Estival, ma bibliothèque d'objets, ma-bo.fr. Merci beaucoup, Fabien Estival. 22h29. Rapide coup d'œil à une de la presse. Demain jeudi, les quotidiens n'ont pas du tout la même perception, pas tous en tout cas, de l'union de la gauche. Pour Libération par exemple, tout devient possible avec l'union des mélenchonistes, écologistes, communistes et maintenant socialistes. L'Humanité y voit logiquement un nouveau départ pour la gauche qui acte le nouveau centre de gravité de la gauche. Alors il est où ce nouveau centre de gravité ? Eh bien pour le Figaro, Mélenchon soumet les Verts et le PS à la gauche extrême pour éviter de faire de la figuration aux législatives. Les partis qui ont signé cette alliance ont décidé d'accepter les conditions des insoumis. Chez les socialistes, les réfractaires organisent déjà la dissidence. Mène son cloche à la une de l'opinion. Mélenchon du vote utile à la mainmise idéologique. L'accord pour les législatives accepté par le PS, les Verts et les communistes reprend les marqueurs de la campagne présidentielle du leader insoumis et consacre sa domination à gauche. 22h31, vous êtes sur Europe 1. C'est le retour de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Ça commence bien.
Ah bah écoutez, quand même, il y a des choses qui ne s'oublient pas quand même.
Comment ça va ?
Ça va très bien, ça va très bien. Écoutez, bon. vous avez le foot avec vous, vous êtes parfait,
oui,
vous êtes très
parfait.
Bien.
C'est parfait. Manchester City vient de marquer un fabuleux but.
À l'instant.
Bim. 1-0.
En direct.
Pour Manchester City, en direct. Voilà, comment ça va ?
Mais ça va très bien, ça va très bien. Moi, j'ai pas suivi d'aussi près que vous ce match qui semblait patiner au démarrage, mais bon.
Oui, oui, un match très stratégique, mais voilà, ce sont toujours les Anglais qui sont vraiment très très forts. C'est une machine. Ça va nous faire sans doute une finale ici à Paris, Liverpool-Manchester City.
Anglo-anglaise.
Anglo-anglaise. Bah, je regardais ce week-end à la télévision que la Ligue 1, anglaise, ouais. Ligue 1, je ne sais plus comment on l'appelle.
La première ligue.
Coûtait 3 milliards, enfin, avait un budget de 3 milliards 200 millions, alors que celui de la Ligue 1 française est de 900 millions, de même pas 1 milliard.
On ne joue pas du tout dans la même course, ça, c'est
non,
certain.
Non, ouais. Donc d'où aujourd'hui le football étant une histoire d'argent, comme dans beaucoup de secteurs, eh bien, les Anglais ont les meilleures équipes. C'est comme ça.
Et se payent les meilleurs joueurs.
Exactement. Mais bon, voilà, c'est toujours beau à voir. Bon bah voilà, on va y aller, on a fait notre petit point footballistique. On se retrouve tout à l'heure pour votre flash à 23h, mon cher Alexandre, à tout à l'heure.